Chapitre 10. Le superintendant Harper, immobile, regardait l'amas de tôles calcinées et tordues. Une voiture brûlée est toujours un triste spectacle, même sans l'horreur supplémentaire de la présence d'un corps carbonisé à l'intérieur. La carrière de Venn était un endroit isolé, à l'écart de toute habitation. Bien que distante de guère plus de 3 kilomètres à vol d'oiseau de Deinmouth, on ne pouvait y accéder que par une de ces petites routes étroites et défoncées, guère plus qu'un chemin rural en fait, qui se terminait en cul-de-sac. La carrière était abandonnée depuis longtemps, et la seule personne à emprunter cette voie était des promeneurs en quête de murs. Pour se débarrasser d'une voiture, c'était l'endroit idéal. Celle-ci n'aurait pas été découverte avant des semaines si un ouvrier agricole du nom d'Albert Biggs n'avait par hasard aperçu la lueur des flammes dans le ciel en rentrant chez lui. Bien que tout ce qu'il avait à dire eût déjà été entendu depuis longtemps, Albert Biggs était toujours sur place et continuait à raconter sa palpitante histoire en la dotant au passage de tous les embellissements qui lui passaient par la tête.
« Mince ! Je me suis dit, qu'est-ce que c'est à faire ? J'en croyais pas mes yeux, on aurait dit un feu de joie. » Mais qui sait qui pourrait bien faire un feu de joie dans la carrière? Non, que je me dis. C'est un vrai brasier. Alors, il y a ni ferme ni maison dans cette direction. Ça vient de la carrière, c'est ça. Je savais pas trop quoi faire quand je vois l'agent Greg qui arrive sur son vélo. Je lui raconte tout. La lueur s'était éteinte à ce moment-là, mais je lui explique où que c'était. Là-bas, que je lui ai dit. Une grande lumière dans le ciel. Peut-être que c'est un vagabond qui a foutu le feu à une meule de foin, un truc comme ça. Mais j'aurais jamais pensé à une bagnole, encore moins avec quelqu'un en train de cramer vivant à l'intérieur. Un drame horrible, pour sûr.
La police du Glenshire s'était activée. Les appareils photos avaient crépité et la position du cadavre carbonisé avait été soigneusement relevée avant que le médecin de la police ne commence ses propres investigations. Ce dernier s'approcha de Harper en ôtant un peu de cendre noirâtre de ses mains, les lèvres figées en un rictus sinistre.
« Du boulot bien fait, » dit-il. « Un lambeau de pied et un morceau de godasse, c'est à peu près tout ce qui reste. L'analyse des os nous en apprendra davantage, j'imagine, mais pour l'instant, je serais bien en peine d'affirmer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. » Pourtant, la chaussure était un de ces machins noirs à lanières, comme en portent les écolières.
« Une écolière a été portée disparue dans le comté voisin, » dit Harper, « tout près d'ici, une gamine de 16 ans environ. »«
Ce doit être elle, » dit le médecin, « pauvre gosse. »
Elle n'était pas vivante au moment où... s'enquit Harper mal à l'aise.
« Non, non, je ne crois pas. » Il n'y a aucun signe montrant qu'elle aurait essayé de sortir. Le corps était tassé sur le siège arrière, avec un pied qui dépassait. À mon avis, elle était morte quand on l'a amenée ici. Puis on a mis le feu à la voiture pour essayer de faire disparaître toutes les preuves compromettantes.
Il s'interrompit un instant et demanda
« Vous avez encore besoin de moi ?»«
Je ne crois pas, merci. »
« Bon, alors je file. »
Il partit à longues enjambées vers son véhicule. Harper s'approcha de l'endroit où l'un de ses sergents, un homme spécialisé dans les affaires de voitures, était occupé. Ce dernier leva les yeux.
« C'est tout ce qu'il y a de clair, superintendant, » dit-il. « Le véhicule a été arrosé d'essence et incendié volontairement. Il y a 3 bidons vides dans la haie là-bas. »
Un peu plus loin, un autre homme était en train de disposer soigneusement de menus objets récupérés dans la carcasse. Parmi eux, une chaussure en cuir noir roussi, ainsi que des bouts d'étoffe à demi carbonisés.
« Regardez, superintendant !» s'écria l'homme en voyant Harper s'approcher. « Avec ça, on en est sûr, maintenant !»
Harper prit le petit objet dans le creux de sa main.
« Le bouton d'un uniforme d'éclaireuse ?»«
Oui, monsieur. »
« En effet, » dit Harper, « ça semble tout confirmer. »
Homme aimable et doux, Harper fut tout à coup pris de nausée. D'abord Ruby Keene, et maintenant Pamela Reeves, une gamine.
Quelle malédiction frappe le comté de Glenshire, se demanda-t-il tout bas pour la seconde fois.
Son premier geste fut d'appeler le chef de la police de son propre comté, puis de joindre le colonel Melchett. Bien que son corps ait été retrouvé dans le Glenshire, la disparition de Pamela Reeves avait eu lieu dans le Redfordshire. Sa tâche suivante n'était guère agréable. Il fallait annoncer la nouvelle aux parents de Pamela. Le superintendant Harper regarda pensivement la façade de Braeside tandis qu'il sonnait à la porte d'entrée. Jolie petite maison, beau jardin d'un demi-hectare, le type de construction qui s'était multiplié un peu partout dans la campagne au cours des 20 dernières années. Des retraités de l'armée ou de l'administration, pour la plupart. Des gens comme il faut, un peu ennuyeux tout au plus, qui consacraient autant d'argent qu'ils pouvaient à l'éducation de leurs enfants, et chez qui on n'aurait jamais imaginé qu'une tragédie puisse se produire. Elle leur était pourtant tombée dessus, la tragédie. Il soupira. On l'introduisit immédiatement dans un salon où se tenait un homme raide à la moustache grisonnante et une femme aux yeux rougis d'avoir pleuré. Ils se dressèrent d'un bond, comme mus par des ressorts.
« Vous avez des nouvelles de Pamela ?»
cria presque Madame Reeves. Puis elle se recroquevilla sur elle-même comme si le regard compatissant du superintendant l'avait souffletée. « Je suis navré, » dit Harper. « Mais vous devez vous préparer à une bien mauvaise nouvelle. »«
Pamela !»
bredouilla la femme.
« Il est arrivé quelque chose à notre enfant ?»
demanda âprement le major Reeves.
Oui, monsieur. Vous voulez dire qu'elle est morte ?
Oh non !
S'écria Madame Reeves avant d'éclater en sanglots. Le major passa son bras autour des épaules de sa femme et l'attira contre lui. Ses lèvres tremblaient, mais il posa néanmoins un regard interrogateur sur Harper, qui baissa la tête.
Un accident ?
Pas exactement, major. Elle a été retrouvée dans une voiture brûlée qui avait été abandonnée dans une carrière.
Dans une voiture ? Une carrière ?
Sa stupeur était manifeste. Madame Reeves s'effondra sur le sofa, secouée de sanglots convulsifs.
Désirez-vous que je me retire quelques instants ?
Proposa le superintendant.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Gronda le major.
Il s'agirait d'un crime. « Ça y ressemble fort, monsieur. Et c'est pourquoi je désirerais vous poser quelques questions, si cela ne vous paraît pas trop éprouvant. »«
Non. Non, vous avez raison. Il ne faut pas perdre de temps, si ce que vous laissez entendre est vrai. Mais je ne peux pas y croire. Qui aurait pu vouloir du mal à une gamine comme Pamela ?»«
Vous avez déjà signalé la disparition de votre fille à la police. »
poursuivit Harper impassible.
Elle est partie chez vous pour se rendre à une réunion d'éclaireuses et vous attendiez son retour pour le dîner, c'est bien ça ?
Oui.
Elle devait rentrer en bus ?
Oui.
D'après les déclarations de ses camarades éclaireuses, Pamela aurait dit à la fin de la réunion qu'elle allait au Woolworths de Deynmouth et qu'elle rentrerait à la maison par le car suivant. Cela vous paraît-il un comportement normal de sa part ?
Tout à fait. Pamela adorait s'arrêter chez Woolworths. Elle allait souvent faire les magasins à Deynmouth. Le car s'arrête sur la grande route à 300 ou 400 mètres d'ici.
Et vous ne lui connaissez aucun autre projet ?
Aucun.
Elle n'avait rendez-vous avec personne à Deynmouth ?
Non, j'en suis certain. Sans quoi, elle nous l'aurait dit. Nous l'attendions ici pour souper. C'est pourquoi... Voyant que l'heure tournait et qu'elle n'arrivait toujours pas, nous avons décidé d'appeler la police. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas rentrer.
Votre fille n'avait pas d'amis indésirables, je veux dire, d'amis que vous n'appréciez pas.
Non, il n'y a jamais eu de problème de cet ordre.
Pam n'était qu'une enfant,
expliqua Madame Reeves, les yeux pleins de larmes.
Elle était très jeune pour son âge. Elle aimait les jeux, tout ça. N'était absolument pas précoce.
Connaissez-vous un certain George Bartlett qui réside à l'hôtel Majestic de Deynmouth ?
Le major Reeves écarquilla les yeux. Jamais entendu parler de lui.
Pensez-vous que votre fille ait pu le connaître ?
Je suis certain que non.
Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Demanda-t-il sèchement.
C'est le propriétaire de la Minoan 14 dans laquelle le corps de votre fille a été retrouvé.
Madame Reeves réagit aussitôt.
Mais alors, il doit...
Il a signalé la disparition de sa voiture à la première heure, se hâta de préciser Harper. Elle était garée dans la cour du Majestic hier au moment du déjeuner. N'importe qui aurait pu la prendre.
Et personne n'a rien vu.
Le superintendant secoua la tête. Des dizaines de voitures entrent et sortent toute la journée. Et la Minoan 14 est l'un des modèles les plus courants.
Madame Reeves se remit à sangloter.
Mais vous n'allez rien faire. Essayez de retrouver le monstre qui a fait cela. Ma petite fille. Ma pauvre petite fille. Elle n'a pas été brûlée vive, au moins. Pam! Ah! Pam!
Elle n'a pas souffert, Madame Reeves. Je peux vous assurer qu'elle était déjà morte quand la voiture a été incendiée.
Comment a-t-elle été tuée?
Demanda le major avec raideur. Harper lui adressa un regard lourd de sens.
Nous l'ignorons. Le feu a détruit tous les indices qui auraient pu nous renseigner.
Il se tourna vers la femme éperdue de douleur sur le sofa.
Croyez-moi, Madame Reeves, nous faisons tout ce que nous pouvons. C'est un travail long et minutieux. Tôt ou tard, nous trouverons quelqu'un qui a vu votre fille à Denmouth hier et vu avec qui elle était. Nous allons recevoir des dizaines et des dizaines de témoignages affirmant qu'une éclaireuse a été aperçue ici, là-bas, partout. Il va falloir faire le tri, être patient. Mais n'ayez crainte. Nous finirons par découvrir la vérité.
Où est-elle? Je peux la voir?
Harper adressa de nouveau un regard au mari.
Le médecin légiste s'en charge. Je suggère que votre mari m'accompagne maintenant et accomplisse les formalités.
Pendant ce temps, essayez de vous rappeler tout ce que Pamela aurait pu dire, un détail, n'importe quoi, auquel vous n'auriez pas prêté attention sur le moment et qui pourrait apporter une lumière quelconque à l'affaire. Vous savez ce que je veux dire. Un mot, une phrase saisie au vol. C'est la meilleure manière dont vous puissiez nous aider.
Tandis que les deux hommes se dirigeaient vers la porte, Reeves montra une photographie.
C'est elle, là.
Harper regarda attentivement. C'était une équipe de hockey. Reeves désigna Pamela au centre du groupe.
Une chouette gosse, se dit Harper en voyant le visage éveillé de l'adolescente encadré de deux nattes.
Ses lèvres prirent un pli menaçant lorsqu'il songea au corps carbonisé dans la voiture. Il se fit le serment que le meurtre de Pamela Reeves ne resterait pas l'un des mystères non résolus du Glenshire.
Ruby Keane, admettait-il en son fort intérieur, avait peut-être cherché ce qui lui était arrivé.
Pour Pamela Reeves, c'était une autre histoire. Une si chouette gosse.
Il n'aurait pas de repos tant qu'il n'aurait pas démasqué l'homme ou la femme qui l'avait tuée.